La dernière fois que j'ai eu l'occasion d'apporter la prédication, il y a une quinzaine de jours, je vous avais fait part de la joie et le privilège qui était le mien de redécouvrir les petits prophètes. C'est ce que je suis en train de lire et d'étudier pour ma méditation personnelle tous les matins. Et donc, la dernière fois, j'ai pu apporter une prédication sur le petit prophète qu'on appelle Joël. Et ce matin, j'aimerais apporter une prédication sur un autre petit prophète qui est assez connu dans l'Évangile, qu'on appelle le berger de Tekoa, qui n'est autre que Amos. Avec le prophète Amos, nous sommes dans les années 760 avant Jésus-Christ. Le royaume de David et de Salomon a connu le terrible schisme qui a divisé le pays en deux zones. Le royaume du Nord, qui garde le nom d'Israël, avec pour capitale la Samarie, et le royaume du Sud, qui prend le nom de Juda et qui a pour capitale Jérusalem. Au nord règne Jéroboam II, dont le pouvoir va s'exercer pendant assez longtemps, c'est-à-dire quand même près de 40 ans. Jéroboam II, c'est un roi soldat qui, par deux guerres, va récupérer toutes les contrées qui ont été perdues. Il se libère notamment du joug syrien, ce qui, quand même, terminera une guerre de près de 100 ans. C'est donc une période de prospérité grâce à la paix qui est retrouvée. Et donc, tout le monde a soif de vivre. Le commerce reprend et les importants échanges avec la Phénicie, qui est un peuple voisin, est un peuple marin, reprend. Mais, et c'est là que va intervenir le prophète Amos, cette prospérité des uns entraîne une précarité sociale pour les autres. Ça veut dire que les riches deviennent de plus en plus riches et que les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. C'est une situation tristement récurrente et je dirais c'est une situation tristement moderne. Car c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, j'aimerais rappeler qu'en Israël, selon les lois de l'époque, les Juifs avaient un patrimoine inaltérable. C'est-à-dire que chaque famille pouvait disposer d'une maison et d'une terre. Et ce patrimoine était inaliénable. Cette terre restait le patrimoine familial. Cette terre ne pouvait pas être vendue parce que les Juifs considéraient que cette terre n'était pas à eux, mais qu'elle appartenait à Dieu. Sous Jéroboam II, la fracture sociale va s'accentuer. Pour payer les dettes dues au coût de la vie, qui est de plus en plus lourd, les plus pauvres doivent vendre leurs terres, ce qui est déjà une déchirure terrible. Mais cela ne suffit pas. Les plus démunis en viennent à vendre leurs enfants. Puis ils en viennent à se vendre eux-mêmes, se réduisant donc à l'état d'esclaves. Et cette situation n'émeut pas les riches, qui en profitent de plus en plus. Et c'est alors que la voix du prophète Amos va se faire entendre. Et le message du prophète Amos sera d'une virulence extrême. Voici un prophète sorti de nulle part. Amos débarque en Israël alors qu'il vient du pays voisin, Juda. C'est un pays frère, mais plutôt dans l'ambiance, si vous voyez ce que je veux dire, des frères ennemis. Amos va prononcer ses harangues au nom de Dieu, tout en développant un message social et égalitaire. Amos, c'est le champion des droits de l'homme et de l'égalité entre eux. Il n'est pas prophète pour autant. Amos est un éleveur de bétail. C'est un exploitant assez aisé, d'autant qu'il cultive également les sycomores. C'est une plante qui sert d'aliment de base au bétail. Il a donc de très très gros intérêts dans la chaîne agricole et dans la chaîne bovine. Le texte biblique nous précise qu'il réside à Tekoa. C'est une bourgade qui se trouve environ à 10 km au sud de Bethléem. C'est donc dans une plaine, pour ceux qui connaissent un peu Israël, c'est dans une plaine que Amos est installé. Or, si le bétail, nous le savons, aime la plaine, le sycomore, lui, chacun le sait, ne pousse qu'en montagne. Et en Israël, il pousse au-dessus de plus des 200 mètres. Ce qui veut dire que les plantations de sycomores ne peuvent pas être proches de Tekoa. Et c'est un petit détail, mais c'est un détail quand même qui nous permet de penser qu'Amos, pour les besoins de ses entreprises, devait voyager et ainsi rencontrer du monde, observer le comportement des gens et sentir le climat social. Et c'est sans aucun doute ce qui va permettre à Amos d'avoir une analyse assez fine de la situation en Israël à l'époque. Homme d'affaires, il est donc capable de juger de l'économie et même, je dirais aussi, des incidences de cette économie sur la population. Nous l'avons dit, Amos n'a pas suivi d'école de prophète, comme il en existait à cette époque. Je vous renvoie au livre de Samuel. Il y avait les fameuses écoles des prophètes. Amos n'est pas un prophète. On vient de le dire, c'est un berger. Il n'est donc pas prophète, mais il est assez croyant et scrupuleux face aux enseignements de la loi. Et il comprend très vite, il discerne très vite que rien ne va plus dans la spiritualité de ses contemporains. Rien ne va plus non plus dans la politique d'Israël. Et voilà pourquoi le berger de Tekoa se fait prophète. Très certainement, Amos est poussé par le Saint-Esprit. Mais cela suffit-il à l'époque pour être reconnu, avoir de l'autorité, être entendu? Lui, l'étranger aux Israélites. Le peuple, je le rappelle, est censé écouter les prophètes. Mais écoutera-t-il? Va-t-il écouter un simple paysan? En fait, la question ne se pose pas, puisque même les religieux ne sont plus entendus à l'époque d'Amos en Israël. Et Amos dénonce cet état de fait. Je lis le chapitre 2, le verset 11, les versets 11 et 12. « Parmi vos fils, j'ai suscité des prophètes. J'ai appelé tel de vos jeunes hommes à se consacrer à moi par un vœu. N'est-ce pas vrai, gens d'Israël ? Demande le Seigneur. Or, vous avez fait boire du vin à ceux qui ne devaient pas en boire, puisqu'ils s'étaient consacrés à moi. Vous leur avez interdit de parler de ma part. Vous leur avez fait fermer la bouche. » Dans ces conditions, Israël est-il capable encore d'entendre la voix de Dieu? Il le faut, car c'est urgent. C'est pourquoi Amos va ponctuer avec force chaque strophe de ses discours avec cette formule « Ainsi parle le Seigneur ». Et il terminera ses propos par « Voici les paroles du Seigneur ». Amos scande sans cesse « Paroles du Seigneur » pour bien marquer l'origine de ses propos. Et il va le faire pas moins de 40 fois. Il insiste ainsi dans un recueil qui ne comporte pourtant que 9 chapitres. Amos insiste sur la parole de Dieu qui retentit. Il s'exclame « Le Seigneur Dieu parle. Qui n'agirait pas en prophète ?» Lui, en tout cas, il agit, il prophétise. Mais il dit une chose intéressante. Et ce qu'il dit est, je crois, encore valable aujourd'hui. Il dit qu'à force de ne pas écouter la parole de Dieu, cette parole qui est libératrice, cette parole qui est source de vie, cette parole qui est source de justice, source de bénédiction, si le peuple refuse d'écouter cette parole, le peuple risque fort de voir Dieu se taire réellement et se taire à tout jamais. Je lis le chapitre 8, verset 11. « Le jour arrive, dit le Seigneur, où j'enverrai la faim dans le pays. Oui, les gens auront faim, mais non de pain. Les gens auront soif, mais pas d'eau. Ils auront faim et soif d'entendre ce que je dis. Ils vont errer en vagabond du sud du pays vers l'ouest, puis du nord vers l'est, pour chercher à entendre la parole du Seigneur. Mais voilà, je me tairai. Et ils ne trouveront pas cette parole. » Et on voit donc que la menace est très sérieuse. Alors Amos rugit comme un lion. C'est sa propre expression. Chapitre 3, verset 8. Il rugit, et on a l'impression qu'il se tourne vers les quatre points cardinaux pour viser toutes les nations des alentours. En effet, nous remarquerons qu'il pointe chaque pays voisin avec toujours, toujours le même refrain. À cause de 3 crimes, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt. Ce qui littéralement veut dire une fois ça va, deux fois ça passe, trois fois j'accepte, mais maintenant c'est la quatrième fois et j'en ai marre et je ne reviendrai pas sur ma décision. Puis l'Éternel va parler de Juda, son propre pays. Oui, les habitants de Juda ont rejeté la loi. Ils ont rejeté les préceptes de Dieu. Ils ont préféré écouter les menteurs. Ils ont préféré écouter les diseuses de bonne aventure. Voilà ce que moi, l'Éternel, je déclare. Chapitre 2, verset 4. J'ai plus d'un crime à reprocher à Juda. Mais le crime que j'ai à reprocher en particulier, c'est celui-ci. Vous méprisez mes enseignements. Vous n'observez jamais mes commandements. Vous vous laissez égarer par des faux dieux qui attiraient déjà vos ancêtres. C'est pourquoi je vous le déclare, habitants de Juda. Je ne reviendrai plus jamais sur ma décision. J'ai décidé que je mettrai le feu dans le pays de Juda, et le feu dévorera les belles maisons que vous habitez. J'attire votre attention aussi également sur le mot en hébreu « belle maison » que l'on pourrait traduire par « château ». C'était en effet de très belles demeures, alors qu'il n'avait jamais de sous pour l'Éternel. Je vous laisse le soin de le découvrir. Puis la critique la plus vive tombe sur Israël, où l'éloignement de Dieu a entraîné le mépris total du prochain. Et regardez bien le texte, parce que vous allez découvrir que les inégalités sont telles que tout est déréglé. Tout est déréglé jusqu'aux mœurs. Chapitre 2, verset 7. Un homme et son père vont vers la même femme. Ils profanent mon nom. Vous remarquerez qu'Amos vise tout le monde. Qu'Amos n'épargne personne, et notamment ceux qui se croient en sécurité. Chapitre 6, verset 1. Hélas, pour vous qui vivez à Sion, pour vous qui habitez sans souci sur la colline de Samarie, vous êtes, paraît-il, l'élite de la première des nations, et dire que les Israélites se tournent vers des gens comme vous. Ceux-là, les élites, pensent qu'ils vont échapper au jugement de Dieu, parce qu'ils partent du principe que leur situation est une situation de privilégiés. Mais cet orgueil, dit l'Éternel, sera écrasé comme le reste. Chapitre 6, verset 8. J'ai en horreur l'orgueil de Jacob. Et le prophète se moque même des victoires guerrières de Jéroboam II. Le roi Jéroboam II pense être fort et redoutable. Il est entré deux fois en guerre, il a gagné deux fois ses guerres.
Il pense donc être le plus fort. Il pense donc être le plus redoutable. Il croit en ses succès personnels. Mais Amos déclare que se complaire dans sa force, c'est encore là une erreur. Chapitre 6, verset 13. Vous vous réjouissez des villes reconquises. Vous dites, n'est-ce pas par notre force que nous avons vaincu ? Mais moi, dit le Seigneur, je suscite contre vous, maison d'Israël, une nation qui vous opprimera. Alors Amos annonce une série de malheurs qui frapperont le peuple infidèle. La malédiction de Dieu, dit Amos, viendra comme une nuée de sauterelles. Elle dévorera comme le feu et tout s'effondrera comme un temple dont les chapiteaux vacillent. Naturellement, ces jugements, ces menaces, ces critiques ne plaisent pas. Et le prophète officiel de Jéroboam II, qui porte un nom, qui s'appelle Amatsia et qui est prêtre à Bethel, va aller trouver le roi pour se débarrasser d'Amos. Il faut le faire taire. Coûte que coûte, Amos doit se taire. Chapitre 7, verset 10. Il complote contre toi, au sein de ta maison. Tu ne peux pas tolérer cela. Il faut l'éliminer. Et Amatsia menace à son tour Amos. La traduction dit gentiment « Va-t'en, visionnaire ». L'hébreu dit « Fous-moi le camp ». Et je préfère de loin, pardonnez-moi cette expression, l'hébreu. C'est « Fous-moi le camp, visionnaire. Retourne d'où tu viens. Retourne en Juda. Là-bas, tu peux prophétiser autant que tu veux. Mais ici, tu n'es pas chez toi. Alors ferme-la. » Amos ne se laisse pas impressionner et il explique comment il est venu à prophétiser. Et il termine en lançant au prêtre une série de sentences qui a dû clouer Amatsia sur place. Chapitre 7, verset 16. Toi, Amatsia, tu m'interdis d'apporter le message de Dieu au sujet d'Israël. Tu m'interdis de débiter des discours, comme tu dis, contre les descendants d'Isaac. Eh bien, écoute donc ce message du Seigneur. Voici ce que le Seigneur déclare. Ta femme sera réduite à se prostituer dans la ville. Tes fils et tes filles seront massacrés. Ta propriété sera partagée au cordeau. Et toi-même, Amatsia, tu mourras en pays païen. Et toute la population d'Israël sera déportée très loin de sa patrie. Quelqu'un a dit très justement un jour, il n'est pas facile d'être pasteur. Je dirais qu'il n'est pas facile non plus d'être prophète. Mais contrer un prophète, c'est encore plus risqué. Et je termine en disant que, au cœur du livre d'Amos, et c'est là que Dieu est extraordinaire, il y a quand même une porte de sortie. Une porte de sortie sur la grâce et sur le pardon. Car même si Israël est coupable, même si le peuple est perdu, même si le roi se fourvoie, Dieu offre la possibilité de corriger le tir pour éviter le pire. Chapitre 5, verset 14. Ne cherchez pas ce qui est mauvais, mais ce qui est bon. Je veux que vous viviez. Ainsi le Seigneur, le Dieu des armées, sera avec vous. Fuyez ce qui est mal. Aimez ce qui est bon. Au tribunal, rétablissez le droit. Alors le Seigneur, Dieu de l'univers, se montrera bienveillant, peut-être pour les derniers descendants de Joseph. ce qui montre qu'il est encore temps. Sinon viendra le jour de l'Éternel. Ce jour-là n'est peut-être pas ce que vous croyez. Vous pensez peut-être que ce sera un jour fantastique, mais cela risque d'être tout le contraire. Ce sera un jour redoutable pour qui ne se sera pas placé dans la voie de Dieu. Et pour montrer qu'on n'échappe pas au jugement, Amos utilise une image terrifiante, et je termine avec cela. Une image terrifiante. Chapitre 5, verset 19. Comme pour un homme qui fuit devant un lion et tombe sur un ours, il entre à la maison, appuie la main au mur et se fait mordre par un serpent. Alors, pour éviter tout cela, il faut entendre l'appel du Seigneur, appel que nous entendrons nous aussi. Cherchez-moi et vous vivrez. Car pour le Seigneur, nous devons le savoir, il n'y a pas de situation désespérée. Commettre des erreurs, s'éloigner de Dieu, se confier en ses forces, oublier les lois de Dieu, oublier les préceptes de Dieu, se laisser entraîner par des menteurs, des faux prophètes, se laisser entraîner par l'idolâtrie, commettre une erreur, c'est grave. Oui, c'est la colère de Dieu que nous méritons. Mais Dieu, avant sa colère, offre toujours une porte de sortie. Encore faut-il la prendre. Car il faut le souligner, les prophéties d'Amos, aussi terribles qu'elles aient été, vont s'accomplir quelques années plus tard. Parce qu'Israël n'a pas écouté Amos. Parce qu'Israël n'a pas écouté la voix de Dieu. Le pays s'est enfoncé. Son roi est mort. Son prêtre est mort dans l'erreur et dans l'errance. On l'a compris, Amos avait un énorme fardeau. Un énorme fardeau pour son peuple. Un énorme fardeau pour ses frères et ses sœurs. C'est d'ailleurs le sens même de son nom, Amos. En hébreu, ça veut dire fardeau. Il y avait un double message d'espoir. Celui du retour possible à Dieu et celui d'une promesse, d'une espérance plus grande. Viendra le jour où la justice de Dieu se révélera. Et ce sera l'espérance d'un retour fantastique. Et voilà comment se termine Amos. Un jour, et ce jour vient, dit le Seigneur, où l'on labourera sans avoir moissonné, où l'on foulera les raisins sans avoir semé, alors le vin nouveau ruissellera sur les coteaux, les collines seront inondées. Je rétablirai mon peuple Israël. Ils reconstruiront les villes dévastées, ils les repeupleront. Ils planteront des vignes, ils boiront le vin. Ils cultiveront des jardins, ils mangeront leurs produits. Je replanterai mon peuple sur le sol qui est le sien. Ils ne seront plus jamais chassés de ce sol. Je leur rendrai ce pays. Voilà ce que j'annonce, moi, le Seigneur. C'est ainsi que se termine le message d'Amos. Israël replanté sur une terre légitime et inaliénable. Ce qui est l'expérience d'Israël, c'est aussi l'expérience de l'Église, de chacun d'entre nous. Cherchons l'Éternel et nous vivrons. Amen. Nous prions. Pour ta parole, Seigneur, des milliers de fois merci. Pour nos erreurs, nos chutes, pardon, Seigneur. Et parce que tu nous relèves, nous te louons et nous te remercions, Seigneur. Aide-nous à accomplir ta volonté. Et rien que la tienne, au nom de Jésus. Amen.